magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du magazine des Nations Unies dont voici le sommaire. 150 000 ex-combattants, dont 10 000 mineurs, encadrés depuis le lancement du programme DDR en 2004 en RDC. C'est là l'une des grandes réalisations à l'actif du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement. Le directeur pays de cette agence l'a souligné à Kinshasa la semaine dernière. Et puis 50% de la population de la RDC n'a pas accès à l'eau potable, révèle l'UNICEF, à la veille de la célébration de la Journée mondiale de l'eau ce 22 mars. Le programme École et Village Assainis, mis en route depuis 2008 en RDC, apporte un début de réponse dans son volet eau potable et assainissement. Le représentant de l'UNICEF en RDC nous en parle, il est notre invité. État de droit de l'homme en RDC, les violations de droits de l'homme et la lutte contre l'impunité ont connu une légère évolution en février 2016. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme note toutefois la persistance des restrictions des libertés fondamentales dans le pays à la veille du processus électoral.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Nous le disions dans le sommaire, le PNUD était impliqué dans l'encadrement des 150 000 ex-combattants dans le cadre du programme Désarmement, Démobilisation et Réintégration DDR. 150 000 dont 10 000 ex-enfants associés aux forces et groupes armés dans l'est de la RDC. Madame Priya Gajraj l'a rappelé jeudi 17 mars à Kinshasa. C'était au cours d'une rencontre avec la presse. Une rencontre au cours de laquelle la directrice pays du PNUD en RDC a brossé quelques actions phares de son agence dans plusieurs domaines d'activité, dont justement celui du programme DDR. Concernant l'encadrement des ex-combattants, le PNUD focalise son appui dans la phase actuelle de ce programme sur les mineurs. Étienne de Souza, l'un des experts du PNUD présent à la rencontre, explique de quelle manière son agence occupe de la réintégration des enfants associés aux forces et groupes armés.
Nous accompagnons le gouvernement aujourd'hui dans le volet de réintégration à base communautaire des enfants associés aux forces et groupes armés. Et c'est dans ce cadre, avec les agences, à savoir l'UNICEF, le PAM et ONUFAM, nous avons un projet de réintégration communautaire des enfants associés aux forces et groupes armés dans le secteur de Bouchia à Rutshuru. Dans ce programme, nous avons à la fois une réintégration scolaire de ces enfants et des enfants vulnérables de la communauté assurée avec l'appui de l'UNICEF. Nous avons une réintégration en termes de formation professionnelle pour un certain nombre de ces enfants un peu plus âgés qui ne peuvent plus retourner dans le circuit scolaire normal. Ce volet, nous le faisons en accompagnement avec l'INPP. Dans ce cadre-là, le PAM, justement, nous accompagne pour assurer l'alimentation scolaire pour les enfants qui sont dans le système scolaire. Tous les enfants, qu'ils soient nos cibles directes, c'est-à-dire les enfants associés aux forces et groupes armés ou pas.
Pourquoi dans son approche de ce programme, le PNUD inclut aussi les autres enfants non associés aux forces et groupes armés? Les explications du même expert du PNUD.
Nous avons dans nos programmes non seulement les enfants associés aux forces et groupes armés, mais également les enfants vulnérables de la communauté. L'idée étant de ne pas donner une prime au fait qu'un enfant ait été associé aux forces et groupes armés, parce que même les enfants vulnérables de la communauté constituent des cibles potentielles qui pourraient devenir après des enfants soldats. Donc si dans une communauté on a pu identifier 500 ex-enfants soldats, il nous faut identifier également 500 enfants vulnérables de la même communauté.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
De 411 violations des droits de l'homme en janvier à 322 violations en février 2016, la RDC a enregistré une légère baisse selon les derniers rapports mensuels du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Mais des restrictions des libertés fondamentales liées au processus électoral persistent encore. José María Aranaz, directeur du BCNUDH, évoque les différents aspects de ce rapport dans un entretien avec Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
José María Aranaz, bonjour.
Bonjour.
Commençons par une question d'actualité. Des militants Lucha ont été dispersés mardi dernier à Goma par la police parce qu'ils revendiquaient la libération de deux de leurs incarcérés à Kinshasa il y a justement une année. Alors, quelle est votre réaction?
Nous sommes très préoccupé par la restriction des libertés fondamentales à la RDC et surtout la répression constante des activités de la société civile. La déclaration des Nations Unies des défenseurs des droits de l'homme et les conventions internationales des droits civils et politiques consacrent les droits à la manifestation, pas seulement pour les organisations, mais aussi par les individus. Alors, ça veut dire que la répression constante des activités de la société civile, c'est une préoccupation et une chose qu'il faut être et corriger avant que les pays se préparent pour le processus électoral. C'est une constatation de la restriction de l'espace politique. Les informations que nous avons documentées de les allégations de au moins 18 personnes qui ont été arrêtées, c'est très préoccupant.
Voilà, on voit que c'est une préoccupation pour vous. Et revenons à votre rapport, donc le rapport février 2016. Quelles sont les grandes tendances, Monsieur José Maria Ranaz, de ces rapports?
Oui, dans le mois de février, les rapports des bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté au moins 332 violations des droits de l'homme dans les territoires de la RDC, qui représentent une diminution de 19% en comparaison du rapport du mois antérieur, ce qui, parmi les violations des droits de l'homme par les groupes armés, c'est les FRPI, les groupes armés qui a commis le plus grand chiffre de violations des droits de l'homme subies par les FDLR. Ça montre la nécessité de neutraliser les deux groupes armés et aussi comme les ADF au plus vite possible. Oui. C'est une question de préoccupation qu'il avait au moins 66% des violations ont été commises par les agents étatiques.
On va y arriver. 411 violations des droits de l'homme en janvier. On est passé à 332. Donc, comment expliquer cette légère évolution?
La diminution des violations des droits de l'homme, c'est une bonne nouvelle et ça correspond à l'évolution naturelle quand il y a des opérations militaires, des neutralisations des groupes armés et aussi des actions du gouvernement pour corriger les violations des droits de l'homme en général. Mais il faut constater la tendance en général parce que même si, par exemple, les violations des droits de l'homme dans l'Est ils sont diminués. On a constaté aussi une augmentation des violations des droits de l'homme, violations des droits de l'homme qui sont des relations avec les processus électoraux et les libertés publiques.
J'ai votre rapport devant moi ici et il y a toujours des constantes depuis le mois de janvier pratiquement de cette année. Et ce sont les mêmes provinces qui sont concernées par ces violations, donc les provinces de l'Est. Et les auteurs présumés se recrutent au sein de ce que vous appelez les agents étatiques, l'ANR, la police et l'armée nationale. Et aussi, autre chose, c'est que le Haut Katanga, qui est à la tête du peloton des provinces concernées justement par les violations des droits de l'homme. Comment expliquer toutes ces constances? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer?
Oui, tout à fait. La situation à Haut Katanga, c'est préoccupant parce que l'augmentation des violations des droits de l'homme là-bas peut être expliquée parce que il y a eu une répression très forte des activités du parti de l'opposition. Ça nous explique l'augmentation des chiffres et violations des droits de l'homme dans les provinces de Katanga, mais aussi la chiffre en général des violations des droits de l'homme qui sont des relations avec les libertés publiques. On a documenté au moins 71 violations dans le mois de février. Le mois de février, c'était un mois très actif pour la société civile et pour l'opposition, mais il y avait aussi beaucoup de violations des droits de l'homme documentées, une forte augmentation de la chiffre de violation des droits de liberté fondamentale.
Oui, par contre, votre bureau relève qu'au mois de février, ces rapports concernent justement le mois de février, au moins 3 militaires des FRDC et un agent de la PNC ont été condamnés pour des actes de violation des droits de l'homme. Est-ce que c'est un sentiment de satisfaction pour vous en ce qui concerne la lutte contre l'impunité?
Oui, la satisfaction de notre bureau, c'est pour constater les efforts du gouvernement dans les cadre de la lutte contre l'impunité. Ça, c'est une chose qu'on a, déjà applaudi, on a déjà salué beaucoup de fois, et on continue à donner l'appui à tous les efforts de la lutte contre l'impunité et les équipes des enquêtes conjointes.
Les libertés fondamentales, les libertés d'expression liées à la restriction de l'espace démocratique, est-ce que cela vous inquiète pour l'avenir du processus électoral en République démocratique du Congo?
Bien sûr, on a alerté, ça fait au moins 4 et 5 mois qu'il y a une tendance préoccupante à la restriction de l'espace politique, de la société civile, des médias indépendants et des partis de l'opposition. Et ça affecte surtout à la liberté d'expression, association, manifestation et droit à la liberté en général, avec les arrestations arbitraires qui sont une tendance préoccupante. Et on a rappelé beaucoup de fois aux autorités de changer la tendance, soit pour que les processus électoraux à l'avenir soient crédibles et apaisés.
Une dernière question, M. José Maria Aranaz. Vous êtes directeur du bureau conjoint. De tels rapports, lorsque vous les publiez, vous les partagez au préalable avec les autorités gouvernementales. Comment réagissent-elles, ces autorités?
Ce rapport a été partagé avec 18 autorités nationales, de membres des pouvoirs exécutifs, du gouvernement, du Parlement et aussi des autorités judiciaires. La réception est toujours, ou presque toujours, est très positive.
Mais ils ne contestent pas vos rapports?
Oui, quand il y a des contestations ou il y a un manque de précision, il y a des correspondances pour donner encore plus d'informations. Mais nous avons les lettres tous les mois qui nous disent que notre rapport sont bienvenus. Et même aussi la déclaration du gouvernement la semaine passée a dit que c'est part d'un dialogue constant pour améliorer la situation des droits de l'homme dans les RDC.
Si c'est la radio, c'est le temps. Est-ce que vous avez très brièvement un dernier mot sur ce rapport?
Le travail de notre bureau, c'est d'accompagner les gouvernements pour faire tous les efforts pour améliorer la situation, pas seulement dans le cadre de la protection des civils, mais aussi pour faciliter l'ouverture de l'espace politique et renforcer le processus de consolidation de la démocratie à la RDC. Et nous sommes prêts à continuer ce travail ensemble avec les autorités, les partenaires internationaux et aussi avec tous les autres acteurs politiques, étatiques et non étatiques qui seront partie de ce effort pour la démocratisation et la consolidation de la démocratie et la paix à la RDC.
José, je vous remercie.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de Radio Capi.
Ouvrons cette page par l'inauguration le 11 mars. Dernier d'un commissariat urbain à deux cellules à garde à vue. Nous sommes à Bounia, dans la province de l'Ituri. Une construction réalisée dans le cadre des projets Impact Rapide de la MONUSCO. But visé du projet, séparer les policiers et les militaires des autres délinquants de droit commun dans les différents cachots de la ville de Bounia. Le coût de ce projet s'élève à 24 868 $ américains. Restons en Ituri à Dungu cette fois-ci à l'initiative de UNPOL, la police des Nations Unies. Une session de recyclage a été organisée du 7 au 18 mars au profit de 91 éléments de la police nationale congolaise d'Isiro. Cela en prélude aux prochaines échéances électorales. La session a porté sur le maintien et le rétablissement de l'ordre public, les gestes et techniques professionnelles d'intervention, ainsi que sur les droits de l'homme. De l'ex-province orientale, revenons à Kinshasa. Plus de 400 policières ont été sensibilisées dans la capitale congolaise au VIH-SIDA. Une sensibilisation assurée par l'ONU-SIDA dans le cadre de la Journée internationale de la femme. Les policières de la PNC ont alors appris notamment les différents modes de transmission du VIH, les mesures préventives et les traitements du SIDA. Elles ont également été sensibilisées à la nécessité d'un dépistage volontaire. Le PNMLS, la MONUSCO, ONU Femmes, les FNUAP ont aussi participé à cette activité.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
50% des Congolais n'ont pas accès à l'eau potable. Cette situation a un impact sur la santé et la vie de l'enfant congolais. Pour pallier ce déficit, l'UNICEF s'est engagée aux côtés du gouvernement depuis 2008 dans un vaste programme Écoles et Villages Assainis, dont l'accès à l'eau potable est l'un des volets. Pascal Villeneuve, représentant de l'UNICEF en RDC, est notre invité. Il s'entretient avec Jean-Pierre et Lali Coco sur cette problématique d'accès à l'eau potable.
Pascal Villeneuve, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Le 22 mars prochain, c'est la journée mondiale de l'eau. Et nous avons une entreprise ici de la place chargée de la fourniture d'eau potable en RDC. Et cette entreprise a un slogan, l'eau, c'est la vie. Alors, que vous inspire ces slogans par rapport aux enfants en cette journée de l'eau?
Oui, tout à fait. Ben, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce slogan. L'eau, c'est la vie. Mais je pense qu'il faut préciser l'eau potable, c'est la vie. Car l'eau peut être également un vecteur de maladies hydriques qui provoquent chez les jeunes enfants, évidemment, des maladies diarrhéiques qui peuvent, si elles ne sont pas correctement traitées, entraîner la mort de l'enfant par déshydratation. Donc, je crois que l'accent doit être mis sur la qualité de l'eau et c'est ça qui est important.
Revenons sur la journée elle-même. Le thème retenu cette année, c'est les changements climatiques. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux concepts, c'est-à-dire les changements climatiques et l'eau, quand on met en exergue la situation de l'enfant congolais, notamment en ce qui concerne l'eau potable?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il a été effectivement observé que le changement climatique peut entraîner des modifications assez importantes concernant l'accès à l'eau d'une façon générale et aussi l'accès à l'eau potable. Je pense que récemment, en RDC, nous avons vécu des inondations assez importantes. Bon, tous les ans, il y a des inondations, mais il semblerait que cette année, ces inondations aient été particulièrement importantes. Peut-être la raison en est le changement climatique, notamment le phénomène El Niño. Dans d'autres parties du monde, le changement climatique peut entraîner une sécheresse, une transformation de zones qui auparavant étaient fertiles en zones quasiment arides en raison du changement climatique. Et ça, cela affecte évidemment l'accès à l'eau et à l'eau potable également.
Selon des statistiques, 52% de la population congolaise, donc en République démocratique du Congo, a accès à l'eau potable. Quel impact, donc j'allais parler de l'incidence, des chiffres peuvent avoir sur la vie de l'enfant considéré comme un être vulnérable?
Oui, tout à fait. Alors, 50% de la population a accès à de l'eau potable, c'est-à-dire de l'eau qui est rendue disponible à travers différents moyens. Cela peut être des distributions en réseau, telles que cela existe en milieu urbain, ou alors à travers la mise en fonction de forages, de puits et de différents systèmes, y compris d'ailleurs le captage de sources qui permet donc d'amener de l'eau potable aux populations. 50%, c'est un peu comme le verre qui est à moitié vide ou à moitié plein. Alors d'un côté, c'est bien, 50%, mais évidemment, il y a encore 50% de la population qui n'a pas encore accès à l'eau potable et surtout les enfants.
Donc il y a un effort à faire.
Voilà, tout à fait. Et donc, parmi les efforts qui sont faits en ce moment, il y a ce que l'on appelle le programme national des villages écoles assainies, un programme mis en œuvre par le ministère de la Santé avec l'appui de l'UNICEF.
Nous allons y arriver. Mais alors, votre agence, donc l'UNICEF, accompagne justement le gouvernement depuis 2008 dans ces programmes dont vous venez de parler, Village et École Assainie. Ce programme est à sa deuxième phase. Quel bilan faites-vous de la première phase qui part de 2008 à 2013 et par rapport, bien sûr, aux besoins en eau de l'enfant congolais?
Voilà, donc effectivement, à l'issue de la première phase de ce programme, c'est un peu plus de 2,5 millions de Congolais qui ont eu accès à l'eau potable, mais pas seulement à l'eau potable, mais également à des conditions hygiéniques et de meilleures conditions d'assainissement dans les communautés dans lesquelles ces populations vivent.
Alors, des milliers et demi en 5 ans, c'est peu, c'est beaucoup par rapport à la population et notamment pour les enfants?
Voilà, donc c'était l'objectif que le programme s'était fixé. Et dans la deuxième phase, c'est à peu près le double de villages qui vont être atteints. Évidemment, c'est pas assez. On est encore loin de couvrir toute la population du Congo, mais notre espoir, c'est que au fur et à mesure, ce programme prenne encore plus d'ampleur et que ce processus de certification des villages en matière d'eau et d'assainissement puisse continuer à s'étendre.
Et comment vous allez le faire? Est-ce que vous avez des programmes précis, un chronogramme arrêté pour arriver à cette deuxième phase?
Alors la deuxième phase, elle est en cours. Il y aura une évaluation dans quelques mois qui sera faite. Et au bout du compte, évidemment, c'est toujours une question de moyens qu'il est nécessaire de mobiliser pour passer à l'échelle une approche qui, pour l'instant, a donné de très bons résultats.
Alors, vous avez des partenaires pour matérialiser ces programmes, et notamment des partenaires financiers.
Le principal partenaire financier de l'UNICEF et du gouvernement congolais par rapport à ce programme, c'est le gouvernement britannique qui a doté ce programme d'une contribution importante, et nous espérons que cet exemple va stimuler d'autres partenaires techniques et financiers à suivre l'exemple du gouvernement britannique.
Oui. Nous venons de faire un tour d'horizon autour de cette journée, mais avant de terminer, Monsieur Pascal Villeneuve, est-ce que vous avez un message à donner à la population congolaise à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau? Un message particulier à l'intention des enfants congolais qui souffrent aussi certainement du manque d'eau potable dans nos foyers?
Écoutez, il y aurait plusieurs messages, mais j'en retiens un en particulier qui me tient à cœur, c'est que la question de l'eau et surtout de l'hygiène, on peut pas dissocier la question de l'eau potable à la question de l'hygiène et de l'assainissement. Et il y a une pratique qui est évidemment tout à fait essentielle, c'est celle du lavage des mains. Il est toujours très important que avant de manger, après avoir été aux toilettes, chacun prenne fasse l'effort de se laver les mains avec du savon. C'est le meilleur moyen, c'est l'un des meilleurs moyens de empêcher la contamination, par exemple des éléments avec des bactéries et des virus qui sont transmis par l'eau, par les mains. Donc c'est une pratique essentielle qu'il faut essayer de promouvoir, et c'est l'affaire évidemment de chacun, des parents et des enfants.
Je rappelle à nos auditeurs que vous recevions dans ces studios B de Radio Capi, Monsieur Pascal Villeneuve. Je rappelle que vous êtes représentant de l'UNICEF en République démocratique du Congo, et Radio Capi vous remercie.
Merci Jean-Pierre.
Retour en Ituri, dans le territoire d'Irumu, quelques projets réalisés par Starec dans les collectivités de Bahema Boga, Bahema Sud et Walendubindi. Des axes routiers réhabilités, des édifices des commissariats de la police construits, en plus du renforcement des capacités des agents et cadres des services de l'État. Une délégation du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant des conflits armés. Starec s'était rendu la semaine dernière sur le terrain. Objectif donc, évaluer ces projets. Delvin Waïsala était dans la suite.
Le premier projet visité, la réhabilitation de l'axe routier Bogorogeti-Boga par la Monisco, à la grande satisfaction des usagers. C'est dans le cadre des activités financées par le projet Starec. Il en est de même de la construction du bureau de la PNC à Getty Centre. En outre, les travaux en cours de la réhabilitation de l'axe routier Bahema-Boga-Bahema-Tchabi par les militaires de la Monisco répondent aussi aux besoins des bénéficiaires dans cette région où les mauvais états des routes sont un obstacle au développement. Témoignage.
Particulièrement, ce que je peux dire, la Monisco, je le vois en peine au courant de ces mois, qui commence déjà à réhabiliter la route Tronso-Boga-Tchabi, à peu près 15 km.
L'importance de cette route?
C'est une route qui est parmi les recettes agricoles. Les produits viennent de Tchabi, le marché de Kinyanjojo, Bouaka du Gainama, planches qu'on est tenté d'exploiter vers la chefferie de Tchabi, la route mène vers l'Ouganda.
Quelles sont certaines autres activités qui ont bénéficié du financement du Starec dans la collectivité de Bahema Sud au bord du lac Albert? Jean-Marc Mazio, chargé du projet Starec dans la province de l'Ituri.
Pour la première phase, nous avons travaillé à Kasséni dans le cas de violences sexuelles. Nous avons accompagné les victimes de violences sexuelles à travers copies, APEC, ADECOR et ainsi de suite sous le lit de l'UNICEF. Mais pour le moment, l'idée pour nous, on veut vraiment amener un programme complet qui doit toucher toutes ces zones-là parce qu'ils ont des problèmes rapprochés. Entre autres, les problèmes liés aux conflits autour d'identité, terre, dynamique régionale, parce qu'il y a aussi la frontière et ainsi de suite.
Et quelle est l'évaluation faite par Starec pour cette première phase à Boga Centre? Jean-Marc Mazio répond à ce terme.
Devant moi, j'ai le bâtiment de la police qui a été réalisé par l'OIM à l'époque. Il y a eu même formation des policiers, équipements et ainsi de suite. À l'époque, nous avons réhabilité même la route. Il y a eu formation des policiers qui étaient déployés à l'époque. Aujourd'hui, je parle de l'impact parce que je trouve le bâtiment est encore là et la police est opérationnelle, le travail du gouvernement ou la justice est opérationnelle et la communauté bénéficie des services. T'as swappé. Par rapport à la première phase, on ne peut pas dire que non, rien n'a été fait. Il y a eu de bonnes choses qui ont été réalisées avec les pactes.
Après le territoire de Mambasa, d'Irumu, la délégation de Starek fait depuis ce mardi le même travail dans le territoire de Ndjougou, Magi et Aru. Bounia, Delve, Waïsala, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Monsieur Pascal Villeneuve, puisque vous parlez de la journée mondiale de l'eau, quelle est la position de l'UNICEF face à la demande du Tchad à la RDC de dévier une partie du fleuve Congo pour irriguer le Tchad qui souffrirait de la sécheresse? Au cas où le projet aboutirait, quand sera-t-il de famille de Sud-Bangui? Serait-il délocalisé? Merci beaucoup.
Je vous invite à suivre à présent la réponse à cette question du représentant de l'UNICEF en RDC, Pascal Villeneuve.
Notre position sur cette question, c'est relativement, je pense, que nous exhortons les deux pays concernés à éviter que toute décision porte atteinte à l'accès à l'eau pour les communautés congolaises concernées. Vous savez, l'eau, c'est vraiment ce qu'on appelle un bien public global. Comme vous le savez, l'eau ne respecte pas forcément les frontières. Il se trouve que dans un certain nombre de parties du globe, l'eau, denrée ô combien précieuse, soit le sujet de tensions politiques entre parties, entre pays, qui revendiquent son exploitation. Et ça peut, dans un certain nombre de cas, être effectivement une source de tensions politiques. Notre position, c'est évidemment d'exhorter les parties concernées à faire en sorte qu'ils se mettent d'accord pour une gestion équitable et durable de cette ressource ô combien précieuse. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à votre question.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Dominique Trottier, je viens du Québec au Canada. Je suis le père de deux magnifiques enfants, une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans. Je suis à la MONUSCO depuis octobre 2015. C'est l'organisme de coopération QSO International qui m'a fait venir à Kinshasa pour travailler auprès de son partenaire Radio Okapi, la radio des Nations Unies. Ici, j'ai les titres de conseiller en communication et spécialiste web. Dans les faits, depuis mon arrivée, mon principal rôle est celui de formateur en journalisme. Donc, au cours des derniers mois, j'ai conçu et donné une première formation à 90 employés de Radio Okapi à Kinshasa. Il y a une cinquantaine d'autres professionnels basés dans les principales régions de la RDC qui devraient aussi bientôt la recevoir. Il s'agit en fait d'une formation sur l'utilisation de l'image en journalisme web. Alors, à l'aide d'exemples concrets, j'amène les journalistes à réfléchir aux meilleures façons d'illustrer un reportage sur le site web de Radio Okapi en pensant toujours aux impacts possible et aussi aux questions éthiques et juridiques. Depuis deux semaines, j'offre une deuxième formation. Elle porte de façon plus approfondie sur la conception de reportages vidéo et de reportages multimédia. À moyen terme, on espère pouvoir en diffuser régulièrement sur le site radiookapi.net. J'ai commencé ma carrière de journaliste il y a près de 20 ans. J'étais alors un petit jeuneau de 19 ans. Je travaillais à temps partiel comme reporter et animateur à la radio pendant que j'étudiais en communication et ensuite en sciences politiques à l'Université Laval dans la ville de Québec. J'ai terminé mes études en programme d'échange à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver avec l'obtention d'un bac universitaire, c'est-à-dire une licence en sciences politiques. À l'époque, je travaillais déjà pour Radio-Canada à Vancouver comme reporter et présentateur de nouvelles. J'y suis resté pendant 2 ans environ avant de partir en Amérique du Sud pour faire du journalisme à la pige. J'étais basé à Lima, au Pérou, mais j'ai également eu l'occasion de me rendre au Chili, en Bolivie, en Équateur et en Colombie, toujours pour des reportages. En 2000, j'ai commencé à travailler pour la télévision de Radio-Canada à Montréal. J'étais rédacteur, c'est-à-dire que j'écrivais les textes de nouvelles que lisaient les présentateurs à l'écran. De 2001 à 2004, j'ai été reporter à Edmonton, en Alberta, toujours pour la télévision de Radio-Canada. Je couvrais les principaux sujets d'actualité, particulièrement en politique. Et en 2004, je suis devenu journaliste d'enquête pour la populaire émission d'affaires publiques JE au réseau TVA, qui est la plus importante chaîne de télévision privée en français au Canada. Donc, pendant 8 ans, j'ai fait beaucoup de reportages exclusifs. Ensuite, je me suis davantage spécialisé dans le web. J'ai été rédacteur web pour différentes entreprises et organisations avant de me retrouver ici en RDC pour relever ce magnifique défi qui s'offre à moi avec Radio Okapi. En plus des 2 premières formations que j'ai déjà conçues, j'ai l'intention d'offrir aux journalistes au cours des prochains mois des formations sur l'écriture et le traitement journalistique, les techniques d'entrevue et le journalisme d'enquête. Depuis mon arrivée à Kinshasa, je n'ai pas fait que travailler. Lorsque j'en ai l'occasion, je sors avec des amis et des collègues. J'ai pu voir des spectacles de musique et de danse congolaise très intéressants. Dans les restos, j'ai aussi goûté à d'excellentes spécialités locales, comme les chenilles et les grillons. Et je le dis sans ironie, j'adore les insectes. Et comme tout le monde, je ne sais pas trop ce que l'avenir me réserve, mais j'ai plusieurs projets en tête. J'aimerais que mon expérience ici comme formateur puisse éventuellement m'ouvrir des portes pour l'enseignement du journalisme. Sinon, eh bien, j'espère continuer à évoluer dans des milieux qui me permettent d'être dans un constant processus d'apprentissage, idéalement dans un contexte international ou multiculturel.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi.
Une date à retenir dans votre agenda de la semaine prochaine, le 21 mars, la Cour pénale internationale CPI rendra son jugement en audience publique dans l'affaire Jean-Pierre Bemba. Il sera à 14h, heure de La Haye. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies. On vous dit encore une fois, merci de nous avoir suivis. On se retrouve comme d'habitude le dimanche prochain à 10h de Kinshasa sur la fréquence de la paix. Vous êtes à Kinshasa, vous nous captez sur la 103.5 FM. Vous nous écoutez à l'étranger, vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci donc à Jean-Pierre Lalikogo qui était à la coordination et au reportage, Martin Sebujangwe qui l'a supervisé, André Mungu à la mise en onde, et moi c'est Tina Salama. À très bientôt, ciao ciao. We'll be right back.